Alors nous allons aborder très directement la lecture des Midrashim que vous avez à la page de 260, la première des deux pages. Je vous indique tout de suite que je vais réserver le dernier Midrash que vous avez à la page 261 et 262, qui est en parallèle entre un parallèle entre Abraham et Moïse. Soit la réserver pour la fin du cours de ce matin, je ne sais pas si nous aurons le temps. Si nous n'avons pas le temps, je commencerai demain par ce midrash. C'est le midrash sur l'expression Vayomer el Avraham. Vayomer el Avraham, Vayomer Dinéli. C'est-à-dire, le dernier paragraphe de la page 261, ça déborde sur la page 262. C'est un paragraphe entre Abraham et Moïse. Je vous demanderai de préparer cela pour demain, si nous n'avons pas eu le temps de le voir aujourd'hui. Bien. Alors, je vais donc procéder de la manière suivante. Pour ceux qui ont sous les yeux un Chumash avec Rashi. Rashi cite des sources très analogues au Midrash que nous avons étudié, mais qu'il prend lui dans la Gemara de Sanhedrin, qu'on ne vous a pas donné comme source. Ce sont des textes parallèles. Nous étudierons la formulation du Midrash Rabbah, mais j'aurai à me référer aussi à la manière dont Rashi cite la Gemara de Sanhedrin sur les mêmes thèmes. Je vais lire le texte du Midrash en l'interprétant vraiment très, très rapidement et je commencerai tout de suite après à poser un certain nombre de questions au texte qui nous déploieront, j'espère, un certain nombre de thèmes importants pour comprendre ce point. Alors, les Midrashim sont sur l'expression Vayehi Achar Advarim Haeleh. Et il arriva après les événements précédents, ceux qui ont été déjà relatés, racontés. Que nous enseignons le texte, que la Torah, que le texte est tenu à nous dire qu'il y a un lien, et un lien de quelle nature, entre ce qui va nous être relaté maintenant, la rue de la Tifra, le récit de cette épreuve, et ce qui a précédé. Moudraha, qui signifie après, pouvait avoir, par rapport à ce problème, deux sens différents. Premièrement, un sens de succession. C'est arrivé après. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements précédents, et la Mishnah de Pirkei Avot que j'ai citée tout à l'heure nous aide à comprendre que tous les événements précédents de l'histoire d'Abraham sont aussi des épreuves. C'est 9 épreuves préalables. Il y a un récit historique qui ne scande pas ce qu'il nous dit de manière aussi directe qu'ici. Ce sont des mises à l'épreuve, dans les trois sens du mot d'est que nous avons vu tout à l'heure, mais déjà nous sommes invités à le comprendre. Et après tout ce qui s'est passé avant, voilà que il se passe ceci. Donc ce « aha » de succession pure doit nous mener à un sens plus précis de « aha » de conséquent. Que nous enseigne le texte, que la Torah, que le texte est tenu à nous dire qu'il y a un lien, et un lien de quelle nature, entre ce qui va nous être relaté maintenant, la rachid à Tifra, le récit de cette épreuve, et ce qui a précédé. Moudraha, qui signifie après, pouvait avoir, par rapport à ce problème, deux sens différents. Premièrement, un sens de succession. C'est arrivé après. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements précédents, et la Mishnah de Pirkei Avot que j'ai citée tout à l'heure nous aide à comprendre que tous les événements précédents de l'histoire d'Abraham sont aussi des épreuves. C'est 9 épreuves préalables. Il y a un récit historique qui ne scande pas ce qu'il nous dit de manière aussi directe qu'ici. Ce sont des mises à l'épreuve, dans les trois sens du mot d'est que nous avons vu tout à l'heure, mais déjà nous sommes invités à le comprendre. Et après tout ce qui s'est passé avant, voilà que il se passe ceci. Donc ce « aha » de succession pure doit nous mener à un sens plus précis de « aha » de conséquent. C'est-à-dire que ceci est la conséquence de ce qui précède et pas seulement ce qui vient après. Je pense que c'est suffisamment clair. Qu'il y aurait une sorte de cause à effet à cause de ce qui s'est passé avant. Voilà ce qui se passe maintenant. Vayhi, ahar advarim haeleh. Est-ce que c'est clair? Vous voyez comment je poserai la question.
Rien du tout de suite, ça nous l'étudierons pas en détail, mais je vous le signale, qu'il y a certains récits, du récit de la Torah, du Tanakh en général, où lorsqu'on nous dit ce dont je vais parler maintenant est arrivé après ce qu'il y avait avant. Mais ce après-avant, après-l'avant, peut être soit la succession, mais surtout, plus profondément, la conséquence. Okay? Et ce n'est pas indifférent de voir, d'ailleurs, ces deux nuances. Parce que ça veut dire qu'il y a un ordre dans l'histoire de la réalité. Que c'est dans cet ordre-là que les relations d'implication de conséquences arrivent dans leur succession. Que c'est la dernière des épreuves dans l'ordre logique, et donc aussi dans l'ordre historique. Je ne veux pas du tout me référer à l'Holocauste, mais nous sommes bien à la fin de la série des épreuves, ça arrive en fin de compte. Vaïe, ahar advarim ha'ele, ce dont on va parler maintenant, eh bien cela, ça arrive en fin de compte. Il y a un lien de sens entre ces deux catégories, bien qu'elles soient radicalement différentes. Simplement, en première lecture, on nous a dit ce qu'il y avait avant, on nous dit ce qu'il y a eu après. Mais pourquoi c'est après? Parce que c'est la conséquence de ce qu'il y a avant. Le chidouch, là, est important. Ça veut dire que quand ça se passe dans la réalité, c'est comme cela que ça se passe. Est-ce que c'est bien clair? Seulement, nous avons une autre impression, une autre expression. Aussi, c'est parfois envahi à haré, à devari maëlé. C'est le même mot. Ken, ani haraï, là. Et voilà. Aharé advarim ha'ele, après ces paroles, en conséquence de ces événements, en conséquence de ces événements, mais ce n'est pas ahar, mais aharé. Et lorsqu'il y a aharé, qui est un mot très analogue, synonyme, alors le Midrash explique que c'est samour, une autre nuance. Samour, ça veut dire que les événements sont joints immédiatement. Ça se passe tout de suite après. Vous voyez la nuance qu'il y a entre aharé et ahar. Ahar, ça veut dire que ça se passe après, mais ça peut prendre beaucoup de temps avant d'advenir, avant d'arriver. Tandis que aharé, c'est que c'est samour, ça vient tout de suite. En particulier, je vous renvoie à l'histoire de l'envahisseur, à l'histoire de l'épreuve de Joseph par rapport à la femme de Potiphar et son épreuve dans la fosse avec l'histoire des rêves, de les chansons et du panetier, comme on dit en français. Et là, la discussion du Midrash porte. Est-ce que c'est samour ou pas samour? Et il y a une importance aussi à se demander si la conséquence arrive tout de suite, sans qu'il n'y ait d'épaisseur de temps, de durée, ou bien si ça peut prendre beaucoup de temps pour que la conséquence se dévoile. Voilà donc quel est, si vous voulez, le problème exégétique qui se pose, et à travers lequel le Midrash va nous dire ce qu'il a à nous dire. Que s'est-il passé? Deuxième indication, c'est que le Midrash, lui, va changer le sens du mot Devarim. La lecture jusqu'à présent, c'est que Devarim, c'est les événements après les choses qui ont été relatées plus haut. Mais le Midrash va nous dire, et nous lisons ensemble tout de suite, Achar Harhore Devarim Sheayu Sham. Hirhore Devarim. Les harher, ça veut dire, c'est un mot que j'emploie souvent, que je ne sais pas traduire en français. Vous allez m'aider une fois de plus à trouver un mot français. Il y a la parole, il y a la pensée, mais il y a aussi cette espèce de parole intérieure au sujet d'une pensée qui ne va pas être dite, mais qui restera implicite. Le hirur, c'est quoi en français? Non, ce n'est pas écrit de l'hirur. Les harher, ce n'est pas exactement une intention. Qui peut traduire les harher? Oui, c'est une parole implicite, mais ça veut dire qu'elle n'a pas été dite, mais qui est quand même entendue dans la voix intérieure. Je ne sais pas comment dire ça en français.
Appréhension.
La
méditation.
Non. Ma. Irure dvarim, ken.
Irure dvarim, ça le crée à Shema.
Ah non, ça c'est tout à fait autre chose. Non, voilà. Irur, c'est le fait de méditer de façon intérieure. Oui, mais non, mais il y a une nuance que je voudrais arriver à exprimer. Par exemple, quand quelqu'un a un doute qu'il ne formule pas. Non. Mais arrête. Vous savez, la racine, c'est un redoublement de la racine. Haro. qui signifie concevoir. Comme je conçois quelque chose avant de le dire.
Et puis, n'est-ce rien ?
C'est concevoir sans concevoir. Je pense sans adhérer à ce que je pense, mais j'envisage. Mais tout cela dans une voie intérieure.
Supputer.
Oui, non, mais supputer en français, c'est à condition d'indiquer que ce n'est pas dit.
C'est le passage de l'inconscient.
Bon, ça y est, vous avez compris. C'est quoi l'essentiel ? Bon, vous avez compris l'opération dans tout ça. Et nous verrons pourquoi. Et non, tout ça c'est un peu... Vous voyez comme c'est extrêmement difficile d'arriver à changer d'origine. Pourtant là il y a une catégorie très simple. Voilà ce que dit le Midrash. Et là, je vous signale que Rashi, citant la Gemara, n'emploie pas la même expression. Le Midrash parle de hirhur et de varim. Des paroles qui ne sont pas dites, mais qui pourraient être dites. C'est-à-dire des présomptions de paroles. Tandis que le Rashi citant la Gemara dit, il y a eu des paroles. Les paroles ont été dites. Prenez Rashi sur la Torah si vous l'avez. C'est donc là. Achar advarim haele. Yesh meravotenu omrim. Achar dvarav shel Satan. Yesh meravotenu omrim. Achar dvarav shel Ishmael. Et la Rashi dit bien dvarav. Ça s'est passé après les paroles d'un tel, les paroles d'un tel. Quelqu'un a dit quelque chose qui a déclenché la mise à l'épreuve. Tandis que dans le Midrash, nous sommes beaucoup, de façon beaucoup plus intérieure, il y avait à dire, il y aurait à dire des choses. Mais avant même qu'elles soient dites, ça se déclenche. Vous voyez la différence entre Hirur et le Dava. Hirur et Devarim, Hayu Sham, dit le Midrash. Suivez sur le texte. Mihirer. Qui a donc parlé sans parler? Qui aurait pu parler? Première, trois niveaux dans le Midrash. Vous entendez? Tout le monde entend, oui. Le Midrash dit, peut-être, vous allez me permettre d'employer un mot faux, mis en doute, okay? Un doute. Et c'est pas exactement un doute, mais il y a un peu quelque chose de cet ordre. Le Midrash dit, Abraham, les nations, Ishmaël. C'est-à-dire il y a une mise en question de la qualité du juste que représente Abraham ou que représente Isaac. Et déjà là, c'est important de voir que tant dans notre Midrash que dans Rashi, citant la Gemara, tout de suite c'est Devarim, les raisons pour lesquelles il va arriver cela, que Dieu va dire à Abraham, porte ce témoignage, si vous voulez, il y a, cela concerne et Abraham et Isaac. Mise... Il y a une mise en contestation d'Abraham qui déclenche l'épreuve. Mais il y a parallèlement une mise en contestation d'Isaac qui déclenche l'épreuve. Ceci au niveau épreuve en général. Et alors, je vous lis le texte du Midrash maintenant et je reviens, si j'oublie entre-temps, rappelez-le-moi, je reviens sur l'expression elle-même, « Vayi ahar advarim haele » qui fait difficulté et cela nous aidera à mieux comprendre ce que le Midrash nous dit. Mais d'abord, prenons connaissance de ce que dit le Midrash. Alors, maintenant vous allez suivre aussi sur le texte, je vais lire simultanément en hébreu et en français, donc comme d'habitude. Alors, première question du Midrash, une fois qu'on a changé le sens de Devarim événement en Devarim parole, Mihirer, qui a pensé qu'il y avait quelque chose à dire ? Abraham irer ve'amar. C'est Abraham d'abord. Première thèse. Abraham. Samarti ve'simarti et akol. J'ai été réjoui. Et j'ai réjoui tous. Ça veut dire, il a été réjoui, sa vie a été heureuse. Il est l'homme pour qui la vie a un sens. Celui que Dieu a désigné comme étant le point de départ d'une histoire qui va avoir un sens et donner un sens au monde entier. Il n'y a pas plus joie que cela. J'ai été privilégié de la joie. Et j'ai réjoui tous quand, dans un des événements précédents très précis, lorsqu'en fin de compte, après le long temps d'attente que Isaac naisse, et que cette promesse qu'Abraham soit fécond se réalise, Isaac est né. Et lorsque Isaac a été sévré, qu'il est devenu adulte, pas seulement Yom Higamel et Titzrak Beno, qui n'était pas seulement un bébé vulnérable et peut-être sans avenir, mais voilà qu'il est sûr que Isaac grandira. Alors Abraham a fait un grand festin, et il a invité tout le monde, et il s'est réjoui, et il a réjoui tout le monde, et à la fin du festin qui nous est raconté dans les événements précédents, du dedans de cette expérience de la joie du festin, va surgir cette mise en doute d'Abraham par lui-même, cette... je voudrais bien que vous m'aidiez à trouver ce mot en français, je sais qu'il existe, bon, ce hirour, eh bien, et il se dit ceci. J'ai été réjoui, j'ai eu la joie, et j'ai donné la joie à tous. Et je n'ai pas prélevé de tous ces troupeaux que j'ai donné à manger à mes invités, je n'ai prélevé ni un bœuf, ni un bélier pour l'offrir à Dieu lui-même, comme c'est moi qui ajoute cela, mais pour un peu anticiper, comme c'est l'usage, comme les hommes font lorsqu'ils veulent témoigner de leur culte à Dieu, et surtout à propos de, comment dire, à propos de tels événements de joie. Et voilà que tout ceci s'est accompli. J'ai eu un fils, et à travers ce fils, je me suis réjoui, et j'ai réjoui le monde entier. Et voilà que je n'ai pas réjoui Dieu qui me l'a donné. Je n'ai pas fait comme font les hommes le rite du culte du sacrifice à Dieu. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a dans cette... est-ce qu'il y a des psychologues parmi vous? Qu'est-ce que ça veut dire ce héros? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un mot précis pour ça? C'est pas une épreuve, hein, je sais. Oui, mais c'est pas ces mots-là qui sont exacts, mais vous fermez l'idée de... Comment on appelle ça en psychologie lorsqu'il y a une espèce de quelque chose qui est refoulé, mais qui veut quand même se faire entendre. Voilà. Ça nous dit ça, maintenant? Bon. Mais écoutez, d'abord, c'est pas la mer, mais ça veut dire qu'on se tient en amont. On a dit de façon un peu ironique, ça a décrit ça à Pouvine déjà, si vous voulez, que l'homme est un mystère parce que ce qu'une femme a conçu ne peut pas se concevoir. Mais, a bien ce deux sens de concevoir dans les deux sens, et physique, et il y a donc ce labeur. Mais vous décrivez le geste, ce que je cherche à exprimer, c'est ceci. Les choses ne sont pas claires. Bien que tout était dit, il reste quelque chose à dire. Comment ça s'appelle, cela? Bon, nous allons nous approcher dans... Hein? Très bien. C'est de l'ordre du scrupule. Ça, il n'y a pas de doute. Bon, on va garder déjà scrupule. Voilà. Non, non, c'est bien, c'est important. C'est ça, scrupule. Okay. Oui, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Pour le moment, nous sommes au niveau Abraham lui-même. Vous voyez, Abraham a des scrupules. Et regardez comme c'est dangereux d'avoir des scrupules. Ah, tu as des scrupules? Alors c'est bien toi. Et si c'est toi, fais la preuve. Et faire la preuve mène à l'épreuve. Oui, c'est très bien. On a bien avancé dans l'analyse. Alors,
okay. Il y a un terme qui correspond à ça, mais qui est trop technique, c'est ce qu'on appelle la perlaboration.
Si vous voulez. Là, j'apprends, mais si vous voulez.
Pour l'utiliser.
Oui. Enfin, avec cet ordre du scrupule moral, okay. Eh bien alors, voilà ce que c'est dit, sans le dire, Abraham. Alors, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, alors Dieu lui a dit, Al menach shenomar lecha. Tout cela, c'était en vue que nous te disions un jour, et là le pluriel est important, shetakriv li et bincha velo te'akev, que tu me sacrifies ton fils et que tu n'empêches pas cela. Est-ce que c'est clair? Vous voyez comment ça se passe? Il y a eu scrupule chez Abraham. Alors Dieu lui dit, eh bien, c'est bien toi, puisque tu as ces scrupules. Et pourquoi c'est arrivé cela? Tout ce qui est arrivé, c'était en vue que, en fin de compte, cette épreuve se passe et que là, tu fasses la preuve que tu ne me refuseras pas ce que je t'ai à demander. Tu n'avais besoin de rien me donner, parce qu'un jour, c'est à toi qu'on va demander de faire la preuve que tu es capable de donner l'essentiel, de donner tout. Et au fond, nous allons apprendre que du point de vue de l'épreuve à Abraham, il n'y a pas d'autre sacrifice que le sacrifice du fils. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres sacrifices que celui-là ? du point de vue d'Abraham. Du point de vue d'Isaac, la formule est différente. Il n'y a d'autre sacrifice que le sacrifice de soi-même. Est-ce qu'il y a d'autres sacrifices pour répondre à l'épreuve? Mais ce sont deux épreuves différentes, et aujourd'hui, enfin, c'est lentement que nous nous approchons de cette problématique. Et ceci est le premier enseignement. Il y a un premier scrupule, le scrupule d'Abraham. Et alors, puisqu'Abraham a eu ce scrupule, alors nous lisons le verset maintenant, « Vaïhi, et il arriva, ahar advarim ha'ele. » Après ces paroles-là, lesquelles? D'Abraham se disant, « Et Dieu ?» Alors Dieu lui dit, « C'est là que je t'attendais, parce que tu es bien l'homme qui va faire cette preuve-là. Alors, va. Et va, je t'en prie, carnal, aide-moi dans cette épreuve. » Enfin, nous verrons cela par là. Voilà donc la première lecture. Deuxième lecture, ce sera celle de Al-Dahté de Rabbi Lazar, un enseignement de Rabbi Lazar. Selon l'opinion, l'enseignement de Rabbi Lazar, de Amar, Elohim vers Elohim. Je lis donc maintenant en hébreu, Elohim vers Elohim. Il dit ceci, reprenez le verset. Le verset n'a pas dit, et il arriva après ces événements dont nous disons ces paroles. Et Dieu, Elohim, Nissa et Abraham, mais il y a Veha Elohim. En hébreu, le Vav et le Ré sont ajoutés au mot Elohim. Elohim signifie Dieu éprouva Abraham. Mais il y a et celui qui est les dieux. Veha Elohim, Nissa et Abraham. Qu'est-ce que viennent ajouter ce Vav et ce Ré? Et alors, Rabbi Lazar nous dit, puisqu'il a écrit Veha Elohim, c'est que d'une certaine manière, Dieu n'est pas seul. Dans ce déclenchement de mise à l'épreuve d'Abraham, et il nous dit ceci, Hu ou Bet Dino, c'est Dieu et son tribunal. Et qui est ce tribunal de Dieu? Là, on apprend une règle du Midrash. Chaque fois qu'il y a Veha, tant pour Vehashem que Veha Elohim, c'est lui et son tribunal. Et qui est ce tribunal? C'est l'ensemble des absolus jugeant chaque manière d'être dans le monde suivant le critère qui lui correspond. Dieu étant l'unique qui est au-delà de la totalité de ses absolus, dans l'infini de leur unité, il y a lui et son tribunal. C'est-à-dire, on entend dans cette mise à l'épreuve, pas seulement la voix de Dieu, du Dieu en tant qu'unique, mais aussi les voix particulières de tout ce qui existe d'autre autour d'Abraham dans le monde, mettant en question l'authenticité d'Abraham. C'est pas seulement lui, Dieu, qui a à mettre à l'épreuve Abraham dans les trois sens du mot Nes que nous avons vu. Nes, bannière, Nisayon, expérience, et Nes, miracle. Vous vous rappelez de cela? Mais c'est aussi les autres, les Malaché Hacharet, les anges du service de Dieu, chacune de ses volontés particulières quant à telle ou telle manière d'être, ce que Mme Amadou Valency appelle les niveaux de l'être dans un de ses livres. Mais nous allons voir ça dans différents registres. L'expression « Malaché Hacharet », les anges du service, est une expression très générale. Mais ici, la récapitulation qu'en donnent les commentateurs du Midrash, c'est les anges préposés à l'histoire des nations. C'est-à-dire, les goïms, les nations, l'humanité qui met en question « Mais qui est cet Abraham ?» que tu vas choisir comme la figure de proue de l'histoire humaine, et nous. C'est-à-dire, il y a ici mise en question d'Abraham par le tribunal des nations du monde, qui est le tribunal de lui, Dieu, lui et son tribunal. Pas seulement le point de vue, le critère par lequel Dieu veut éprouver Abraham, et que nous aurons à développer, mais aussi la contestation des nations, que j'essaierai de paraphraser très rapidement. De paraphraser très rapidement de la manière suivante. Nous n'avons pas vu qu'Abraham est capable de ce dont nous sommes capables. Nous sommes capables des cultes dans lesquels nous sommes capables de te donner nos fils. Est-ce qu'Abraham est capable de cela? Et alors, à la manière du Midrash, je dirais, Dieu a besoin d'Abraham pour répondre à ses anges, en leur disant, eh bien, il va vous montrer qu'il est capable. Okay? Est-ce que c'est clair? Et vous voyez comment Israël, dans son histoire, a été interpellé de la même manière. Est-ce que tu es capable de construire pour Dieu les cathédrales que nous construisons. Je vous donnerai ma réponse. Nous ne sommes pas capables. D'ailleurs, ce n'est pas notre travail de faire des cathédrales. On fait tout ce qu'on peut, on n'arrive pas. Oui, c'est une preuve que nous sommes bien Israël. Essayez de comparer la rue des Victoires, de la Victoire à leur dame. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on n'y arrivera pas. Mais c'est un bien qu'on n'y arrivera pas. On essaye d'imiter, mais on n'arrive pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est cette épreuve-là. Non, je suis épouvantable aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce midrash? Est-ce que vous êtes capable de me construire la rue de la Victoire? Oui, alors fais la preuve. Est-ce que c'est clair? Pas. Il y a ici quelque chose de, je ne veux pas dire tragique, mais de terriblement dramatique. Que le peuple d'Israël est obligé de faire la preuve qu'il peut être aussi païen à la manière des autres, d'une certaine ligne. Parce que sinon, les païens ne vont pas admettre qu'il est craignant Dieu, croyant Dieu, homme de foi. Vous voyez, quand les nations sont travaillées par le sentiment religieux, j'emploie des expressions épouvantables, mais vous comprenez, quand les nations sont travaillées par le sentiment religieux, il en sort les pyramides, les cathédrales. Vous vous rappelez ce qu'était la foi des constructeurs de cathédrales gothiques ou pas gothiques du Moyen-Âge, les constructeurs de pyramides, etc. Et voilà que c'est pas là que l'esprit parle. C'est dans les petits shtibels, je ne sais pas comment on dit en arabe, comment on dit ça, les petits oratoires d'un petit minyan du quartier juif, de n'importe où d'ailleurs. Et c'est là-bas que ça parle. Et alors les nations ne sont pas contentes, vous voyez cette mise en question dans le tribunal. Alors Dieu dit à Abraham, eh bien montre-leur que tu es capable de faire toi aussi une cathédrale. Et une cathédrale inachevée, hein, une cathédrale pas construite. Le sacrifice ne sera pas consommé. Et vous voyez quel est le problème. Mais montre-leur que tu es capable de cela, parce que sinon ils ne vont pas croire que tu es vraiment Abraham et la raison pour laquelle je t'ai choisi. C'est extrêmement périlleux ce que je dis là. Okay? Vous comprenez que ça pourrait être utilisé en mal, ce que je dis là. Est-ce que c'est clair? Voilà. Mais, justement, et c'est pourquoi Abraham dit, ben, je suis prêt. Mais où est la différence? Et où est l'épreuve pour Abraham? N'importe quel païen fait ça dans une extase religieuse. Pour Abraham, c'est dur. Parce que lui est l'homme de la morale. Pour les païens, c'est pas dur. C'est leur extase, ça, d'assassiner leur fils. Vous voyez où mène le mythe chrétien. C'est le salut du monde, ça, tuer le fils. Mais c'est pour Abraham que c'est une vraie épreuve. Voilà la différence. Et ça veut dire, montre-leur que tu es capable de ça. Et voilà la réponse d'Abraham. Quoi, ça, tu me demandes? À moi, c'est difficile. Ouais, c'est clair. Et vous voyez pourquoi je disais peut-être un peu ironiquement, c'est très difficile pour une communauté d'arriver à se construire une synagogue qui ressemble à une cathédrale. Je crois qu'à Paris, ça ressemble un peu. Okay. Bon. Eh bien, là. Voilà le premier thème. On avance rapidement parce que je voudrais quand même poser la question d'exégèse à laquelle répond ce midrash. Deuxième thème, c'est donc la mise en question par les nations. C'est ce thème-là qui, dans la Gemara, est au nom du Satan. C'est clair? Parce que le Satan, c'est celui qui va récapituler en une seule voix la contestation des nations. C'est clair? C'est-à-dire, le Satan, dans ce tribunal, c'est l'accusateur public. Il y a un doute à mettre en évidence, le Satan s'en charge. C'est pourquoi nous avons peur du Satan. Parce qu'il dit la vérité. C'est pourquoi il est terrifiant. Il fait son travail. C'est l'accusateur public au tribunal de Dieu. Le Satan, nous dirons les Midrashim qu'il y a avant, dans le début du chapitre, le Satan ne s'occupe que des tzadikim. Le Satan ne s'occupe que des justes. Parce que c'est les justes qui sont à être testés. Est-ce que tu es vraiment ce que tu es censé être? Okay? Et c'est pourquoi le juste a peur du Satan. Parce que le Satan, c'est la vérité absolue. Il y a ce doute. Il faut faire passer du koach au poal, du potentiel à l'acte. Et c'est terrible d'avoir à faire la preuve d'une vertu potentielle au niveau de la réalité. Je crois en telle vertu. Oui, ça tu crois. Et je crois que tu crois. Mais ce que tu peux faire, alors ça, c'est l'épreuve. Faire ce en quoi on croit. Et vous voyez donc quel est le caractère dramatique mais, de cette mise à l'épreuve. Il n'y a pas de doute que cette épreuve-là, Israël en tant qu'Abraham, après nous verrons Israël en tant qu'Isaac, mais Israël en tant qu'Abraham, il est acculé par son histoire. Si tu es Israël, tu y passeras. Parce que les nations ont raison de dire oui. Mais tu es injuste. Et monsieur, pourquoi celui-là? Vous voyez à peu près le problème. C'est-à-dire que c'est un thème énorme là qui apparaît à travers ce midrash. L'humanité entière a construit toutes les pyramides du monde, toutes les cathédrales du monde. L'espérance ne passe que par les petits oratoires du minyan juif. Et tout le monde le sait. À qui Dieu a parlé? À ceux qui entendent l'hébreu. Pas plus compliqué que ça. Okay? Bon, il y a des raisons pour ça. Mais pourquoi il s'est choisi ce véhicule? Il a des raisons. Regardez le mérite des patriarches qui sont au commencement. Ils ne savaient pas que l'histoire allait le révéler, le dévoiler. Ils ont opté. Ils ont eu la foi. Nous n'avons même plus à avoir la foi. Parce que, tout simplement, c'est comme ça que ça s'est passé. Comment dit la conscience de l'humanité quand elle y croit? Le salut vient des Juifs. Entendez bien ce verset des évangiles. Il n'y a pas écrit « le salut vient du Christ » chez les chrétiens. Il y a écrit « le salut vient des Juifs ». Il y a une clé très importante. Les rédacteurs des évangiles savaient quel était le message qu'ils voulaient laisser au Vatican à la fin des temps. Mais nous y sommes sans doute. Et alors, c'est un message vatique. Vous savez, c'est l'origine de Vatican. Et alors, la mise à l'épreuve a effectivement été faite. Est-ce que tu es capable d'avoir un livre de prière? Tout simplement. Oui, et pour moi c'est difficile, etc. Vous voyez à peu près le problème. Bon, vous voyez à quoi je pense, c'est des non-dits qu'on n'a pas le temps de dire, mais c'est là la difficulté de ce j'explique. Ne croyez pas que le rite juif n'est qu'un ersatz du rite païen à la manière juive. C'est pas ça que je veux dire. Okay? Vous comprenez le problème? Parce que tout ce ersatz du rite païen à la manière juive, c'est ça ce que l'ange a refusé. Toi, Abraham, tu es hébreu, ne le touche pas. Mais montre que tu serais capable de le faire. Et là j'ouvre une parenthèse. Les gens me disent, alors l'épreuve est théorique? Non, l'épreuve n'est pas théorique. Parce que, bien que nous sachions par la foi, par la certitude de la foi, que le sacrifice n'a pas lieu, l'épreuve comme épreuve, on y passe. Vous allez me dire, mais il a eu lieu. Bon, ça on verra jeudi soir. Okay? Je voudrais vous citer Elie Wiesel, que j'ai en mémoire, je ne pourrais pas vous dire dans quel livre il a dit ça, que de notre temps, l'ange qui devait arrêter le sacrifice a été en retard 6 millions de fois. C'est sûr. Oui. Bon, mais ça, laissons ce problème pour après. C'est une phrase très belle. Cet ange-là était en retard 6 millions de fois. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette théorie, par exemple, que la Torah a autorisé les sacrifices, parce que les païens, c'est ça leur rite. Les hommes, c'est ça leur rite. Alors il faut bien que les Hébreux aient aussi un rite. Alors on a autorisé les sacrifices, comme les païens, en les cachérisant. C'est une doctrine fausse qu'on impute à Maïmonide. À tort, Maïmonide n'a jamais voulu dire ça, il a voulu dire autre chose. C'est un autre problème. Mais ça veut dire ceci. Le vrai culte, c'est le sacrifice au niveau de la nourriture. Et les païens ont détourné le culte authentique vers des faux dieux. Et la Torah restitue l'objectif sacrifice authentique. Est-ce que c'est clair? Mais il ne s'agit pas du sacrifice humain. Il s'agit du sacrifice de la nourriture. C'est un tout autre niveau et un tout autre thème. Du sacrifice de la jouissance. La nourriture étant ici, la jouissance par excellence, celle qui fait être, exister, pardon, pas être, celle qui fait exister ma conscience. Sans les hanaot de la achila, ma conscience n'est pas là. C'est à ce niveau-là que je dois réaliser le culte du sacrifice dans le sens vraiment élémentaire du terme. Il ne s'agit pas du tout d'imputer cette explication au sacrifice humain. Voilà, la phrase importante est la suivante. Pour les païens, c'est l'extase religieuse de donner son fils en sacrifice. Tandis que pour Israël, c'est impossible. C'est impossible. D'où l'épreuve d'Abraham. Sinon, on ne comprendrait pas en quoi il y a une épreuve. Vous comprenez le truc. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui dit que le Satan, il va réapparaître un autre verset, et va dire à Abraham, « Abraham, tu es fou? Tu crois que Dieu a pu te demander ça? Attention, c'est le Satan qui te le demande. » Il essaye de le troubler. Il essaye de l'embarrasser en difficulté. Et Abraham répond, enfin, c'est moi qui paraphrase, « Tu crois que je connais pas la différence de timbre de voix entre la voix de Dieu et la voix du Satan? C'est toi qui es timbré, si j'ose dire. » Mais il y a là un autre midrash extrêmement précis, extrêmement délicat. Un hébreu sait que là, il y a une épreuve incompréhensible. Parce que, pour, encore une fois, n'importe quel païen comprend que c'est ça le sacrifice. Mais un hébreu refuse. Et déjà, j'ai beaucoup avancé dans l'analyse que j'aurai mercredi soir, d'essayer de vous faire comprendre que la manière dont le récit du sacrifice d'Isaac a été transformé dans le mythe de la passion, ça c'est goy, c'est pas juif. Un juif, ça lui entre pas dans l'oreille. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair. Alors on avance. Troisième vision, c'est de ce même thème, c'est cette fois les paroles de Ishmaël. Yitzhak et Ishmaël, vous y êtes? Yitzhak et Ishmaël, ayoum et daïnim ze inze. Yitzhak et Ishmaël se disputaient. Zéomer, l'un disait, Ani chaviv imecha, je suis plus précieux que toi, sous-entendu aux yeux de Dieu. Shenimalti lishlosh esrechana, parce que j'ai été circoncis à 13 ans. Ça, c'est la voie de l'islam. Ishmaël est circoncis à 13 ans. Mais Zéomer, et l'autre répond, Anicha viv mimecha, c'est moi qui suis plus précieux que toi, ça c'est la voix d'Israël, si j'ose dire, Shenimalti lishmona yamim, j'ai été circoncis à 8 jours. Quelle différence entre la circoncision à 13 ans et la circoncision à 8 jours, qui donne un handicap à Ishmaël, disons, qui donne un privilège à Isaac, le texte ne l'explique pas, mais nous aurons à le reprendre. La circoncision à 8 jours est d'une autre nature que la circoncision à 13 ans. Amarlo Ishmaël. Alors Ishmaël reprend la discussion. Ani chaviv imecha. Non, c'est bien moi qui suis plus précieux que toi. Ton argument de 8 jours, je le refuse. Lama, pourquoi? Parce que j'aurais pu refuser, j'ai pas refusé. J'étais adulte, 13 ans, c'est la majorité en Israël. En islam, c'est la circoncision. Il y a une espèce de retard, de décalage. C'est un autre problème. Mais du dedans de cela apparaît, moi, j'ai adhéré à ce qui vous, à ce qui pour vous, et j'emploie le mot que l'égoïme emploie, à ce qui pour vous est une fatalité, un destin. Vous êtes né là dans ce malheur, comme disait Heine. Vous êtes né juif. Vous n'avez pas eu à adhérer. Et quoi qu'on en dise, bien entendu, à l'échelle individuelle, il faut une adhésion un jour ou l'autre. Mais en réalité, nous n'avons pas adhéré. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a le cas, le voudrions-nous que les goyim ne veulent pas? D'ailleurs, le bon Dieu ne veut pas. Il y a un verset terrible dans Ézéchiel. Et quand vous direz que Kechol Agoïm Bet Israël, nous voudrions être comme les autres, ou bien il nous est arrivé que nous sommes comme les autres, alors Dieu dit, vous verrez si je vous rependrai pas en moi, Bechema Shfucha, avec la colère déversée. Et Chema, c'est une colère terrible. Et à quoi vous jouez? Vous êtes pris au piège. Bon, je vais arranger ça. Mais d'abord, la première apparence. Est-ce qu'on peut vraiment? On fait semblant qu'on adhère. Où est-ce que je veux dire? En réalité, c'est le judaïsme qui adhère à nous. C'est à nous que le judaïsme a été donné. C'est pas nous qui avons été donnés au judaïsme. Il y a une identité juive préalable à ce dont on parle lorsqu'on parle du judaïsme. Est-ce que c'est bien clair? Par exemple, et le cas particulier des guérims, c'est différent. Le cas particulier des convertis, c'est différent. Eux ont fait comme Abraham, et ils n'ont pas l'épreuve d'Isaac. Mais nous, les juifs, nous avons l'épreuve d'Isaac. Et je sais pas si vous voyez déjà un peu la différence. Et alors, la discussion continue. Voilà ce que dit Ishmaël. Et Ishmaël ici est le porte-parole de tous les autres hommes, chrétiens y compris, qui ont adhéré dans l'adulte de leur civilisation au message de la Bible, alors que les Juifs le portent par essence, par naissance. Et ici, c'est peut-être la même chose. C'est bien clair. Bon. Que dans leur manière adulte d'adhérer au message de la Bible et du Dieu d'Abraham, ça a été adultéré, excusez-moi le jeu de mots, mais il y a eu adultère, inévitablement. Vous savez d'ailleurs que c'est la maladie des adultes. L'angine étant la maladie des anges. Mais, et alors, qu'il y ait eu altération, c'est un autre problème. Mais ils peuvent se réclamer de cela, que c'est adulte qu'ils ont adhéré à cet appel, comme les théologiens disent, alors que Israël, lui, eh bien Israël, il est né comme ça. C'est un destin, entre guillemets, c'est pas un destin, c'est pas une fatalité, c'est pas un malheur. Tous les matins, nous disons cette prière extraordinaire. Ashrenu, matov, halkenu, velumur, manaim, goalen. Tous les matins, nous disons, comme heureux notre sort. C'est pas vrai, on n'a jamais été heureux. Mais imaginez les Juifs en plein ghetto disant cela tous les matins, Ashrenu, et en dansant sur toutes les danses possibles. Mais nous sommes heureux de quoi? D'être ce peuple-là, d'être les Hébreux, de porter cet avenir. C'est de ça que nous sommes heureux. Le bonheur de la terre, sans, on est attendu par les épreuves. Vous voyez à peu près le problème. C'est un bonheur d'identité et pas de jouissance. Et alors, ça continue de la manière suivante. Beotacha, à ce moment-là, quand Ishmaël a dit, mais moi j'étais adulte, majeur et vacciné, si j'ose dire, Beotacha, à ce moment-là, Amar Yitzhak, Yitzhak a dit, Halvai, je souhaiterais, Hayanigle alayakazvehu, que Dieu se révèle à moi. Veomerli, et me demande, et me dit, Cher Tochechad Mevaray, Velo Hakev, que je tranche un de mes membres, et je n'empêcherai pas. Miyad ve'elokim nissa et Abraham. Et alors tout de suite, Dieu a éprouvé Abraham. Quel rapport? C'est Isaac qui est en question. Pourquoi il a éprouvé Abraham? Je vous donne tout de suite la réponse avant de voir la suite du texte. Et vous voyez l'humour de Isaac. De quoi tu parles? D'avoir été éprouvé par un membre. Moi, ce dont il est question, c'est moi tout entier. Vous voyez que ça ne fait pas le poids, le sacrifice d'Ishmaël et le sacrifice d'Isaac. Vous voyez ce que je veux dire? Ce dont se targue Ishmaël et ce dont est prêt Isaac. Et alors Isaac, avec beaucoup d'ironie, lui dit, c'est tout, ça, je voudrais bien que Dieu me demande que ça. Est-ce que vous comprenez le problème? Et alors, je voudrais expliquer tout de suite. Il fallait attendre qu'Isaac soit prêt quant à lui pour qu'Abraham puisse être éprouvé quant à lui. C'est là que nous avons le lien entre ces deux séries de Midrashim. C'est bien clair? Abraham devait être éprouvé, dans l'ordre. D'abord Abraham, de son épreuve à lui. Mais l'épreuve ne pouvait pas lui être proposée tant que Isaac n'était pas prêt. Parce qu'Isaac était concerné par le contenu de l'épreuve à Abraham. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et enfin, dernière formulation, qui est reprise dans la Gemara que cite Rashi. Voilà comment est le dialogue, en fait, entre Ishmaël et Isaac, et c'est ceci. Nusra Acheret, autre recension, je ne sais pas comment on dit Nusra, autre formulation du même enseignement. Amarlo Ishmaël, Ishmaël a dit à Isaac, Ani Chavi Mimecha, c'est moi qui suis plus précieux que toi, Shenimalti Lishlosh Eseshana, parce que j'ai été circoncis à 13 ans. Avalatani Malta, mais toi tu as été circoncis Bekotnecha, lorsque tu étais enfant, bébé. Et à cet âge, on ne peut pas refuser. C'est clair, quand un père juif fait circoncire son fils, l'enfant, il est dans les langes. Amar lo Yitzhak. Alors Yitzhak lui a répondu, de quoi tu parles? Tout ce que tu as prêté à Dieu, c'est trois gouttes de sang. Et la hareni achar, mais moi qui suis maintenant Ben Shloshim Veshevar Shana, âgé de 37 ans. Mercredi, je parlerai peut-être, si je n'oublie pas, que c'est l'âge aussi d'une des recensions chrétiennes qui attribue l'âge du corps glorieux pour le sacrifice consommé du récit des évangiles. Vous voyez que, comment se fait la transposition. Et moi qui suis âgé de 37 ans, Ilou me bakeshkli à Kadosh Baruch Hu, si Dieu avait réclamé de moi, les ishachet, d'être sacrifié dans le sang, ishachot, égorgé, et ni marakev, je n'empêche pas. Amar Kadosh Baruch Hu, alors Dieu lui a dit, haré hacha'a, le temps est venu, miyad elokim nisa et Abraham, et alors Dieu éprouva Abraham. Mais, nous retrouvons d'ailleurs ce que je voulais expliquer précédemment, c'est-à-dire que le texte nous parle d'une épreuve à Abraham, mais c'est Isaac qui est en question. Or, il fallait attendre qu'Isaac soit prêt pour son propre, sa propre épreuve, pour que Abraham, quant à lui, soit éprouvé. Alors j'en arrive, il nous reste 20 minutes, j'en arrive donc à la question qui est derrière tout cet enseignement du Midrash. Première remarque importante, il y a deux sources parallèles. Enfin, je veux dire deux thèmes parallèles. De quoi est faite l'épreuve à Abraham et de quoi est faite l'épreuve à Isaac. Tant dans la Gemara que dans le Midrash, c'est bien clair. Dans la Gemara, le Satan dit, cet homme Abraham, que tu as privilégié en tout, il n'est pas religieux. Alors Dieu s'adresse vers Abraham. À Abraham, il dit, je t'en prie, fais le rite des hommes. Et il ne lui dit pas, je t'empêcherai. Il dit, montre-leur que tu es capable. Vous voyez le drame d'Abraham. Comme j'ai dit tout à l'heure. Pour Abraham, c'est inconcevable. Comment le Dieu d'Abraham demande cela à Abraham. Vous voyez comment la transposition au niveau de l'histoire, elle est facile à lire. Comment le Dieu des Juifs laisse faire cette mise à l'épreuve d'Israël. Que ce soit le Dieu des Goïms, ça c'est clair, c'est comme ça qu'il travaille. Mais le Dieu des Juifs, vous comprenez le problème. Et deuxième remarque, c'est ceci, c'est que il y a deux mises en question. Parce qu'il y a deux mises en doute. La deuxième étant celle d'Isaac. D'une certaine manière, la descendance d'Abraham a deux éventualités de l'épreuve. En tant qu'elle est Abraham et en tant qu'elle est Isaac. Et dans l'un et dans l'autre cas, il faut y passer. Bien. Alors nous avons toujours en suspens la grande question. Mais ici, c'est un récit où c'est l'épreuve qui est l'épreuve, mais pas la réalité. C'est clair, Abraham a souffert de cette épreuve, il a vécu l'épreuve comme épreuve jusqu'au bout. Isaac a vécu l'épreuve comme épreuve jusqu'au bout. Mais en fin de compte, dans la réalité, ça ne s'est pas passé. C'est ça le mythe. Le mythe, c'est quand on croit que ça s'est passé dans la réalité. Alors que l'enseignement ici, c'est que ça ne doit pas se passer. C'est en ça que nous croyons. Un Dieu qui empêche que la violence soit le sacré. Tandis que le mythe, c'est de croire que précisément, quand c'est réalisé, alors c'est là que la moralité apparaît. Ce qui apparaît là, c'est la barbarie la plus monstrueuse. C'est le mythe le plus épouvantable. Depuis que j'ai lu ce livre de Régine Girard, je regrette de l'avoir lu.